important que M. Trudeau accepte de nous redonner le pouvoir pour les immigrants permanents. Mais en attendant, on peut passer par les travailleurs temporaires pour atteindre le même objectif. Bon, moi, je suis confiant que M. Trudeau va accepter. Je ne vois pas pourquoi on ne serait pas capable de ravoir un pouvoir qu'on avait.
Voici Paul Journet et Carl Bélanger.
Alors, c'était François Legault donc qui réagissait ce matin au refus d'Ottawa donc de lui donner ces pouvoirs là que réclamait son ministre Jolin Barrette hier là, lors du dépôt du projet de loi pour discuter de ça et de d'autres sujets. Paul Journet, éditorialiste à La Presse. Bonjour Paul.
Salut Bernard.
Carl Bélanger, stratège. Bonjour Carl.
Bonjour.
Vas-y, Paul, sur le refus d'Ottawa, qui n'est franchement pas surprenant. C'est la persistance avec laquelle Legault réitère ce matin sa demande qui me surprend un peu, moi.
Oui, ben écoute, ça ne changera pas grand-chose, en effet. Non seulement le Québec pouvait prévoir qu'Ottawa allait refuser, mais le Québec pouvait aussi se prémunir contre ça. Et ça, c'est pas une surprise, on en parlait déjà en campagne électorale. Il faut expliquer brièvement le système. Si le Québec choisit les immigrants économiques, donc ceux qui sont non humanitaires, à leur arrivée, ils reçoivent un certificat de sélection. Puis à partir de ce moment-là, ils deviennent résidents permanents. Et si tu veux ajouter des conditions, du genre connaître la langue, connaître les valeurs, aller en région, bien à partir du moment où le Québec a déjà donné son certificat, c'est dans la cour du fédéral. Donc là, si le gouvernement caquiste veut ajouter un test de français, puis un test de valeurs...
Il faut qu'il le fasse avant de donner le certificat.
Exact. Soit que tu as l'appui d'Ottawa, ou soit que tu crées un nouveau certificat temporaire, parce que la poignée du Québec, c'est quand il donne son certificat. Fait qu'on l'avait déjà dit en campagne électorale, le Québec n'avait qu'à créer un certificat temporaire et avant de donner le certificat final, ben tu vérifies la connaissance du français, des valeurs. On le savait déjà, puis ils ne l'ont pas fait et puis c'était prévisible l'échec. Et je me demande, est-ce qu'ils ont foncé vers cet échec-là en toute connaissance de cause, en sachant très bien que ça devient un bordel à gérer le test des valeurs? Parce que comment est-ce que tu en viens à expulser un citoyen? Est-ce que tu expulses une personne et pas les autres membres de sa famille? Ça devient bien, bien compliqué.
Non, dans le fond, ce que tu dis, c'est qu'ils ont fait exprès. Ils ont fait exprès pour qu'on crée une chicane avec le fédéral pour pas que ça marche.
Ben, ils ont fait exprès, Carl, pour pouvoir dire qu'on l'a essayé puis c'est la faute du fédéral, ça n'a pas marché. Fait que
exact.
Suis libéré.
Ils ont leur parfait méchant.
Je suis libéré de mon engagement de créer un test des valeurs. Vous voyez, j'ai essayé, Ottawa a dit non, ben bye-bye.
C'est ça te montre que l'immigration, c'est un dossier complexe là, qui se gère mal avec des slogans. Puis, je vais être clair, sur le principe, le fait que le Québec demande à ravoir des pouvoirs qui avaient été abandonnés par le précédent gouvernement libéral, j'ai rien contre. Moi, je suis d'accord que le Québec devrait obtenir ces pouvoirs-là. J'ai pas un gros problème de principe à ce qu'on vérifie certaines connaissances. D'ailleurs, le fédéral lui-même le fait. Il demande un test de connaissance de la citoyenneté. Puis le gouvernement Charest lui-même aussi l'avait fait. Il avait imposé une demande, une déclaration en 2009 par laquelle le nouvel arrivant s'engage à respecter certaines valeurs québécoises. Donc, c'est pas une hérésie vérifier les connaissances. C'est pas non plus une hérésie de vérifier la langue. Il y a plein d'autres pays qui le font et on le fait déjà pour les étudiants ou les travailleurs étrangers. C'est juste que si tu es un parti qui veut gagner une élection ou un gouvernement, ben il faut que tu as le devoir d'aller au-delà des lignes puis d'essayer de vérifier dans le détail est-ce que ce que tu proposes est applicable puis est-ce que tu prends les moyens nécessaires pour atteindre les fins que tu prétends souhaiter.
Mais je te rappelle que je vous rappelle deux, là, juste avant de te céder la parole, Carl, qu'ils travaillent sur une nouvelle formule qui permettrait ça, là. Ottawa et Québec, actuellement, sont en négociation depuis plusieurs semaines autour d'une nouvelle façon de gérer l'immigration, une nouvelle voie. Ce serait une espèce de formule hybride où les gens arriveraient avec un permis de travail, 1 à 2 ans, ils pourraient amener leur famille avec eux. Et si le Québec, avant de délivrer le certificat, veut faire passer un test de français puis un test de valeur, il pourrait le faire à ce moment-là, avant que le fédéral donne sa résidence permanente. Et Ottawa est d'accord avec cette formule-là. OK? Je vous le dis, là. Je l'ai revérifié hier soir. Carl, vas-y.
Mais c'est intéressant ce que Paul vient de dire par rapport aux élections, parce que l'élection qui s'en vient, c'est une élection fédérale. Et là, on a un parti libéral qui dit non au Québec, et de l'autre côté, on a un parti conservateur, à du moins sur l'immigration, qui a déjà dit qu'il y avait les bras grands ouverts pour les demandes du Québec. Alors, est-ce que ça deviendra un enjeu électoral au Québec, au fédéral, je pense que oui.
J'ai pas entendu les conservateurs dire qu'ils étaient favorables au test des valeurs du Québec, moi, là, puis j'ai pas entendu ça du tout, là.
Non, je suis d'accord avec toi, mais sur la majorité de demandes du Québec, puis je serais pas surpris, là. Écoute, les conservateurs voulaient aller très loin sur les valeurs lors de la dernière élection fédérale, je serais pas surpris qu'ils ramènent ça comme un enjeu pour le Québec spécifiquement.
Oui, puis il faut rappeler que c'est quelque chose qui se fait très simplement pour le fédéral. Ça se fait par règlement. Donc, tu n'as pas besoin de déposer un projet de loi, de l'étudier, puis de t'exposer à toutes les critiques de l'opposition. Mais exact. Juste souligner un autre point, Bernard. Parce
en
que
terminant,
d'abord...
Paul, parce que je veux vraiment parler de SNC-Lavalin. Vas-y en terminant, s'il te plaît.
Ah, OK. Bien, très, très vite. La CAQ a pris une bonne décision. Comme les libéraux et les péquistes voulaient le faire, elle met fin au système premier arrivé, premier servi. Puis là, enfin, on va sélectionner activement les immigrants qui correspondent le mieux à notre marché du travail. Ça fait longtemps qu'on en parle. Enfin, quelqu'un le fait. Voilà.
Excellent. Carl, parle-nous d'SNC-Lavalin parce que c'est vraiment la grosse histoire sur la scène politique fédérale.
Oui, c'est la plus grosse histoire de ce début d'année, certainement. Le Parti conservateur et le NPD, là, ce matin, qui exigent la tenue d'une réunion d'urgence du Comité de la justice de la Chambre des communes. Dans le fond, ils vont faire une enquête parlementaire sur les allégations d'ingérence politique, d'obstruction de justice qui viendrait du bureau du premier ministre dans les procédures criminelles de fraude et de corruption qui visent SNC-Lavalin. Il y avait une conférence de presse ce matin du chef du Parti conservateur, Andrew Scheer. On peut écouter ce qu'il avait à dire.
Si les libéraux refusent, c'est clair qu'il y a les choses qu'ils veulent cacher. Ça, c'est clair. S'ils refusent d'avoir la transparence, d'avoir l'opportunité pour les députés de poser des questions, il y a une seule conclusion, et ça est qu'ils cachent la vérité.
Alors, il faut se le rappeler, là, Carl, les conservateurs et les autres partis d'opposition accusent Justin Trudeau d'avoir fait pression sur son ancienne ministre de la Justice, Wilson Raybould, pour en venir à une entente à l'amiable là, avec SNC-Lavalin qui fait face à des accusations criminelles.
Exactement, et c'est une histoire qui est sortie par le Globe and Mail hier. Et on a évidemment ça rebondit à la Chambre des communes. Il y a eu beaucoup de questions. Le gouvernement libéral a passé un très mauvais quart d'heure, je te dirais, la période des questions. Ça s'est poursuivi ce matin. David Lametti subissait son baptême du feu. Il était chancelant à plusieurs reprises. Ça a essayé de s'en tenir à la ligne. Il n'y a pas eu de directive donnée. J'en ai pas reçu moi-même. Mais je dois dire, là, Andrew Scheer particulièrement était très bon à poser des questions très pointues au gouvernement. Mais on avait toujours la même réponse. Puis je dois te dire aussi que si le Parti libéral voulait mettre un couvercle sur cette histoire-là, bien, Wilson Raybould, qui est l'ancienne ministre, qui est celle qui est visée par ces pressions qu'on allègue, elle était présente à la Chambre des communes. Elle aurait pu se lever et dire « c'est faux ». Or, elle ne s'est pas levée une seule fois, et lorsque les médias lui ont posé des questions, elle se contente d'un fameux « pas de commentaire ».
Elle se pose.
Et ça en dit long.
Un silence éloquent.
Ben oui. Ben oui, parce que si c'était faux, elle pourrait tout simplement le dire. Et là, ben, à Ottawa, dans les couloirs, on chuchote que peut-être que Wilson Raybould serait, elle ou son entourage, serait la source de cette fuite, qu'elle le ferait par vengeance, et qu'elle sourit en coin en voyant son gouvernement patauger dans ce problème-là, et qu'elle se cache derrière la confidentialité en tant qu'avocate avec son client, qui était le gouvernement fédéral.
Et syncope. Paul, tu souhaites rajouter?
Non, bien, vu du Québec, au-delà de tout ça, je pense que il n'y a pas eu de réaction officielle du gouvernement Legault, mais il y a une réelle inquiétude, et depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, pour l'avenir d'SNC-Lavalin. Tu sais, des fois, on a le fleuron facile quand on parle du déménagement de sièges sociaux, mais SNC-Lavalin, c'est indéniablement un fleuron vital pour l'économie québécoise. Puis on se dit, le projet de loi, adoptée par le gouvernement Trudeau, qui était taillée sur mesure pour SNC-Lavalin, je pense qu'il y a pas mal de gens qui auraient espéré qu'elle soit appliquée et qu'on puisse en venir à un règlement, même si, parallèlement à ça, les peines hyper clémentes pour Pierre Duhaime, là, ça a choqué pas mal de monde avec raison, mais tu peux vouloir que les individus soient punis sévèrement, puis t'inquiéter pour le sort des employés retraités de SNC-Lavalin et les conséquences sur l'économie québécoise.
Ouais, moi, je vais vous dire, là, je l'ai dit ce matin à Paul Arcand, là, mais moi, je trouve qu'actuellement, dans le grand déchirage de chemise auquel on assiste présentement à Ottawa, moi, j'aimerais ça qu'un député ou une députée du Québec rappelle que oui, il y a peut-être eu un problème dans la manière avec laquelle Justin Trudeau et son entourage ont géré ce dossier-là, mais il ne faudrait pas perdre de vue qu'il y a près de 2000 emplois encore chez SNC-Lavalin, que c'est l'une des plus grandes firmes de génie civil au monde, que c'est un siège social absolument hyper important et qu'il y a dans la loi qui a été votée avant Noël une disposition qui permet à la ministre de la Justice ou au ministre de la Justice maintenant de demander à ses procureurs de s'asseoir avec SNC et de négocier une entente à l'amiable dans laquelle SNC reconnaîtrait ses torts, paierait une pénalité, devrait faire la démonstration qu'ils ont assaini leur façon de fonctionner et tout le reste. Mais la loi permet un tel arrangement. Hein, ça s'appelle un accord de réparation. Et là, ce qui va arriver, évidemment, c'est que là, tout le monde est sur le cas de Trudeau et de son entourage et de sa gestion du dossier. Mais pendant ce temps, SNC-Lavalin s'en va à procès. Et s'ils sont condamnés aux criminels, ils n'auront plus le droit de soumettre, de déposer des appels d'offres pour des contrats au Canada. Ils vont être barrés pour des contrats un peu partout sur la planète. Et l'action va planter encore plus qu'elle a déjà planté. Et la première affaire qu'on va savoir, c'est qu'ils ont été rachetés par un groupe étranger. Alors, moi, je veux bien, la justice est hyper important, mais l'intérêt public également, de façon plus large, l'est aussi dans ce dossier-là.
Mais écoute, dans le cas de SNC-Lavalin, c'est pas comme si c'était la première fois qu'il était dans le trouble au niveau légal. Puis cet argument du « too big to fail », puis ça va nous faire mal à tout le monde, à un moment donné, il faut mettre des limites. Écoute, le code criminel a été amendé en catimini, je te le rappelle, c'était dans le projet de loi du budget, ça n'avait rien à voir, il n'y a pas eu de débat public, donc déjà là, ça sent pas bon. D'autre part, lorsque c'était adopté, le service des poursuites pénales du Canada a décrété que SNC ne remplissait pas les critères pour se prévaloir de ce régime, d'où les pressions qui ont suivi du bureau du premier ministre pour tenter de contourner cette décision-là. Et c'est là qu'est le problème.
Bien là, qu'on nous dise à ce moment-là, c'est ce que SNC-Lavalin doit faire pour rencontrer les critères de la loi. On ne dit pas qu'ils ont droit à un privilège. La loi, elle existe, et puis d'ailleurs, cette loi-là existe ailleurs aussi dans d'autres pays pour permettre à des compagnies, justement, de passer au travers. Parce que là, c'est bien beau, t'as une couple de crosseurs puis de pourris qui sont des criminels, mais les travailleurs, là, le monde qui gagne l'UV à SNC-Lavalin, Carl, est-ce qu'ils doivent être emportés? Y avait-tu quelque chose à voir avec la corruption?
Écoute, si tu dis qu'ils vont être rachetés par quelqu'un, ils vont garder des emplois. Ils ont beaucoup de contrats, ils ont beaucoup de...
Mais le siège social, en tout cas, on l'aime, notre siège social.
On verra. Paul Journet, Carl Bélanger, merci à vous deux.
Merci, Bernard. Allez.